Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs en Christ. Et je vous propose de démarrer ce moment par deux lectures. On va commencer par deux lectures dans la parole de Dieu et une première lecture dans le livre de l'Exode au chapitre 3, au verset 13 à 15. Exode chapitre 3. Versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. » Et une deuxième lecture dans l'épître de Jacques, chapitre 1 et verset 17. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Vous connaissez. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Dieu soit loué pour sa parole. Ce soir, je voudrais partager avec vous une pensée qui réconforte mon cœur quand j'y pense, quand je la médite, une pensée qui m'encourage, une pensée qui me fait du bien et une pensée qui me remplit de joie. Et j'espère, vous me direz à la fin, j'espère que pour vous aussi, ben, vous serez concernés par tout cela. Alors, c'est une pensée très simple, attention, hein. Je ne vais rien vous apprendre de très nouveau que vous ne sachiez déjà. C'est une pensée très simple mais très puissante. C'est que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. On le dit souvent, on le prie souvent, on le chante souvent. Dieu ne change pas. Mais il y a une grande puissance dans cette déclaration et je vous propose d'en parler ce soir. Dieu ne change pas. La parole dit que Dieu est immuable. On l'a lu, il ne varie pas, il ne change pas. Et cette déclaration que Dieu ne change pas, je crois, est une clé pour mieux connaître Dieu. Pour mieux connaître Dieu. On doit mieux connaître Dieu. Nous devons chercher à mieux connaître Dieu. Lui nous connaît parfaitement. Mais nous sommes loin de le connaître. Et comprendre que Dieu ne change pas, je pense, nous aide à mieux le connaître. Et à mieux comprendre sa parole. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos débuts de lecteur de la Bible. Je fais appel peut-être à de vieux souvenirs pour certains, des souvenirs plus récents pour d'autres. Mais réfléchissez à ça. Comment étiez-vous face à la Bible quand vous étiez à vos débuts de lecteur de la Bible? Parce que ce n'est pas évident de lire la Bible. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Je ne sais pas pour vous. Mais lire la Bible, ce n'est pas évident. Alors, il y a différentes versions, bien sûr, mais il y a un vocabulaire particulier, une grammaire particulière. Selon les livres, ça peut changer. Et puis, bien sûr, il y a la forme, mais il y a aussi le fond. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour se nourrir de la parole de Dieu. Réfléchissez à ça. Comment vous étiez à vos débuts de lecteur de la Bible? Moi, personnellement, j'ai appris à lire avec la Bible. J'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui a 6 ans de plus que moi. Et c'est elle qui m'a appris à lire. Donc j'avais 5-6 ans. Et elle m'a appris à lire avec une Bible. Et donc on va dire que, à mes débuts de lecteur de la Bible, eh bien, j'étais très intéressé, j'étais très sérieux, j'étais très motivé, parce que quand on apprend à lire, on veut toujours connaître un mot de plus et un mot de plus, et lire une phrase de plus, une page de plus, un verset de plus, un chapitre de plus. Donc j'étais un lecteur très, très intéressé, très motivé. Mais j'étais enfant aussi, donc je ne comprenais pas tout. Et par la suite, quand j'ai continué à lire ma Bible, j'avais une impression... Ce n'était pas qu'une impression d'ailleurs, mais c'est que tout ce que je lisais, en fait, j'en étais un peu comme un spectateur. Je ne comprenais pas en quoi ce que je pouvais lire dans la Bible me concernait moi. Ça parlait d'histoires merveilleuses, ça parlait de miracles, ça parlait de prodiges qui s'étaient passés des milliers d'années avant, très loin de mon époque, dans un autre continent, donc en l'occurrence le Proche-Orient, donc très loin de la culture, de notre culture française au XXe et XXIe siècle. Je ne comprenais pas bien, même si j'aimais lire ma Bible et j'étais motivé, je ne comprenais pas bien en quoi tout cela me concernait moi. Même si on m'expliquait à la maison, on m'expliquait à l'église que la Bible était la parole de Dieu et que tout ce que Dieu disait dans la Bible était la vérité et que je pouvais le prendre en compte pour ma propre vie, j'avoue que j'avais du mal à saisir le lien qu'il pouvait y avoir entre ce que je lisais et ma vie. Le lien qu'il pouvait y avoir entre ce que vivaient les personnages bibliques et ce que moi je vivais dans ma vie. Je parle à quelqu'un là ou... Bon, ça va. Alors, la Bible, c'est un monde dans lequel les personnages, enfin, en tout cas beaucoup de personnages, nouent des relations intimes avec Dieu. On connaît tous les histoires d'Abraham, de David, de Josué. Et on voit que ces hommes-là entretiennent une relation intime avec Dieu. On est fasciné par ces histoires, on est fasciné par ce qu'on lit, mais tant qu'on n'a pas saisi en quoi cela peut nous concerner, quel est le lien qui fait que nous sommes concernés, ben, on a tendance à ne rester que de simples spectateurs. Et le problème, c'est que tant qu'on ne découvre pas ce lien, tant qu'on ne saisit pas ce lien, en fait, on peut rester longtemps de simples spectateurs. Je disais tout à l'heure que la Bible n'est pas facile à lire. Certaines personnes commencent à lire la Bible et puis au fur et à mesure, parce qu'elles ne saisissent pas ce lien, elles vont commencer à se décourager. Et certains même ont perdu le fil et ont arrêté de lire la Bible parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient pas compris, parce qu'il y avait à un moment donné une frontière infranchissable pour eux. Certains continuent de la lire et même croient ce qui est écrit dans la Bible, mais parce qu'ils ne saisissent pas quel est ce lien, ils n'arrivent pas à instaurer une relation intime, une relation de proximité avec Dieu comme les personnages bibliques ont pu le faire. Et cette impression de décalage, en fait, elle vient du fait que nous ne cherchons pas ce fameux lien là où il est. Nous ne cherchons pas ce fameux lien comme il le faut, tout simplement parce que ce lien entre la Bible et nos vies, c'est Dieu lui-même. Nous devons comprendre que Dieu ne change pas. Je le disais tout à l'heure, Dieu ne change pas. Et le lien qu'il y a entre ce que nous lisons dans la Bible et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il s'agit du même Dieu. Et je dirais même précisément le même Dieu. Exactement le même Dieu. Même si nous ne le mesurons pas, même si parfois nous pensons, quand nous lisons les exploits que peut décrire la Bible, que c'est loin de nous, que ce n'est pas à notre portée, mais en fait ce n'est qu'une impression. Parce que nous avons le même Dieu qu'Abraham, nous avons le même Dieu qu'Isaac, nous l'avons lu, le même Dieu que Jacob, c'est le même Dieu et nous pouvons nous attendre aux mêmes choses que ces hommes-là dans notre vie. Dieu ne change pas, il n'y a chez lui aucune ombre de variation, nous l'avons lu tout à l'heure, et Dieu est immuable. La Bible nous dit que Dieu est immuable. C'est l'adjectif qui est employé pour dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si je crois qu'il ne change pas, si je crois que c'est le même Dieu, alors je crois que tout est possible dans ma vie aujourd'hui. Je crois que Dieu peut me sortir d'un désert comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Je crois que Dieu peut me donner la victoire face à Goliath. Je crois que Dieu peut me ressusciter comme Lazare. Et je m'attends à vivre tout cela. Si j'ai compris que Dieu ne change pas, je m'attends à tout cela dans ma vie. Donc je vous propose d'approfondir cette réflexion au travers de cinq dimensions de Dieu qui ne changent pas. Alors, il y a beaucoup de dimensions de Dieu qui ne changent pas, mais précisément cinq. Son existence, sa nature, sa vérité, ses voies et son plan. Donc premier point, l'existence de Dieu ne change pas. Il est le premier et le dernier. Nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48, au verset 12 et 13. Ésaïe 48, verset 12 et 13. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Amen. Dieu a créé le monde. Il a également créé tout ce que le monde contient. Il a créé la terre, il a créé les cieux, les étoiles, la nature, les animaux, l'homme, évidemment, il a tout créé. Et la particularité de ce que Dieu a créé dans notre monde, c'est que ce qu'il a créé a un commencement et une fin. La Bible commence par « au commencement » et nous savons qu'il y aura une fin. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour toute créature, création de Dieu sur cette terre. Elle a un début, un commencement et elle a une fin. Les jours passent, les nuits passent, les semaines passent, les mois, les années, les saisons, tout passe dans ce que Dieu a créé. Cependant, Dieu ne passe pas. Dieu a toujours été. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il a toujours existé et il existera toujours. Et donc Dieu est différent de nous. Nous, nous sommes nés, un jour nous sommes nés, nous avons été enfants, et puis nous avons eu une croissance, une adolescence, une vie de jeune adulte, nous avons continué à grandir, et puis un jour nous déclinons. Moi, je suis dans la phase là où j'ai commencé à décliner. Nous déclinons. Et nous déclinons jusqu'à une certaine mesure, puisqu'un jour nous nous éteignons. Mais Dieu, lui, n'est pas né. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a jamais été enfant, il n'a pas de phase de croissance, il est déjà au plus haut qu'il puisse être. Il n'a pas non plus de phase de déclin. Dieu ne décline pas, à la différence de nous. Voilà une idée, je pense, qu'il faut méditer. Nous changeons, nous évoluons, nous grandissons, nous déclinons, et Dieu, lui, ne change pas. Il est exactement le même que celui que il était au commencement. Il est immuable, impérissable. Pour lui, il n'y a pas de passé, pas de présent, pas d'avenir. Tous les jours sont devant lui. Alors vous voyez, moi, rien que ça, ça me rassure. Parce que ça veut dire qu'avant même que je sois né, il existait. Il existe aujourd'hui. Et quand je serai mort, il existera encore. Et je serai avec lui pour l'éternité. Il ne change pas. Il a toujours été là. Et il sera toujours là. Parce que vous aurez besoin de lui, il sera là. Quand vous étiez enfant, il était là. Vous êtes adulte, il est là. Quand vous serez dans votre vieillesse, il sera toujours là. Amen. Et si nous pouvons avoir cette espérance de vie éternelle, c'est parce qu'il est éternel. C'est parce qu'il ne change pas. Si Dieu changeait, vous vous rendez compte? Un coup, il est éternel, puis un coup, il ne l'est plus. Je ne sais pas ce qu'on serait. Deuxième point, c'est que la nature de Dieu ne change pas. La nature de Dieu ne change pas. Nous, dans notre vie terrestre, il y a beaucoup de choses qui changent chez nous. Nous ne sommes pas aujourd'hui les personnes que nous avions été il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Nous changeons beaucoup. Notre nature change, notre caractère change, notre personnalité. Parce que, à un moment donné, il y a des événements dans la vie qui font que nous changeons. Il peut y avoir des accidents, des maladies, des rencontres, bonnes ou mauvaises, des influences. Bonne ou mauvaise. Il y a une rencontre qui change tout dans la vie d'un homme, c'est la rencontre de Jésus. Un homme qui a rencontré Jésus, si vous demandez à son entourage comment il était quelques années auparavant, ils vont vous dire, mais on ne le reconnaît pas. Vrai ou faux? Il y a aussi des rencontres qui nous font changer, mais pas en bien. Et dans la vie, on peut rencontrer, et on a même des exemples dans la Bible, des gens très bien, qui évoluent très mal, et aussi des personnes qui n'étaient pas bien, et qui évolue très bien. On peut rencontrer ça. Donc, notre nature, notre caractère peut changer du tout au tout. Et Dieu, lui, n'est pas concerné par ces évolutions. Dieu, il n'est pas concerné par tout ça. Sa nature ne change pas. Son caractère ne change pas. Dieu reste le même. Sa personnalité ne change pas. Le Dieu que nous connaissons dans la Bible, c'est le même auquel nous avons affaire. Et dans le livre de l'Exode, on lisait tout à l'heure un verset, on va lire quelques autres. Dieu nous révèle deux choses importantes. On l'a vu, il a dit « Je suis celui qui suis ». Et dans Exode 6, verset 2, Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel, Yahweh, je suis l'Éternel. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire l'Éternel. » En ces quelques mots, Dieu nous dit beaucoup de sa nature. Je suis celui qui suis et je suis l'Éternel. Il est éternel, il est éternellement immuable, il ne changera pas. Et quand il nous dit « Je suis celui qui suis », bien sûr, il nous dit qu'il est éternel, mais il nous dit aussi qu'il porte la vie en lui. Il porte la vie en lui. Et que cette vie, il la porte en lui hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la première chose importante. La deuxième chose importante, on peut le lire dans Exode, chapitre 34, versets 5 à 7. Exode 34, 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Il est en train de nous dire qu'il ne change pas. Il est en train de nous dire qu'il est miséricordieux jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire à toujours. « Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. » Dieu lui-même, c'est lui-même qui se déclare auprès de Moïse qu'il est ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera toujours. Qui d'entre nous, ici, pourrait dire, peut-être 3000 ou 4000 ans plus tard, je ne sais pas, que Dieu n'est pas miséricordieux? Qui pourrait dire ça? Qu'il n'est pas compatissant? Qu'il n'est pas lent à la colère? Qu'il n'est pas riche en beauté? Personne ici, personne ne peut dire que Dieu a changé, que le caractère de Dieu a changé, que sa nature a changé. Nous ne pouvons pas le dire, tout simplement parce qu'il n'a pas changé, parce que c'est comme ça qu'il est envers nous. Il est miséricordieux. N'est-il pas miséricordieux envers nous? N'est-il pas bienveillant envers nous? N'est-il pas compatissant? Quand vous regardez nos vies, quand il regarde nos vies, n'est-il pas compatissant? N'est-il pas riche en bonté? N'est-il pas fidèle tous les matins quand nous nous levons? N'est-il pas là? Troisième point, c'est que la vérité de Dieu ne change pas. La vérité de Dieu ne change pas. Sa parole est une vie éternelle. Dans Jean 17, 17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus lui-même déclare que la parole de Dieu est la vérité. Alors toujours pour faire le même parallèle, parmi nos difficultés, les difficultés de l'homme, il y en a une qui est importante, c'est que l'homme a une grande incapacité à dire des choses fiables. C'est difficile, pour plein de raisons. Soit parce qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit, soit parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il dit, soit parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il pense, soit parce qu'il a changé d'avis, ça arrive, soit parce qu'il ne se rappelle plus ce qu'il a dit, alors il se contredit, parfois tout simplement parce qu'il ment. La parole de l'homme n'est pas fiable. En tout cas, sans l'assistance de Dieu, sans l'assistance du Saint-Esprit, notre parole n'est pas fiable. D'ailleurs, les hommes sont tellement friands de cachotterie, de mensonges, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, qu'ils ont même inventé des jeux à base de tout ça. Il y a le poker. Moi, j'ai jamais joué, mais je sais que c'est à base de ça. Les poissons d'avril, même si c'est gentil, ben, quelque part, c'est ça aussi. On joue avec... À se faire des blagues et à se dire des choses un peu fausses, quoi. Voilà. Donc, l'homme a vraiment une difficulté, c'est de dire la vérité. Par contre, Dieu, lui, n'a pas ce problème-là. Parce que sa parole est la vérité. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Car il est la vérité. Et quand il exprime la vérité. Et la parole de Dieu, ben, elle reflète sa nature, c'est-à-dire qu'elle est immuable. Elle est parfaite, elle est fidèle, elle est invariable. Et surtout, elle ne dépend pas des circonstances. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est la vérité hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu ne sera pas... Dieu ne va pas modifier sa parole par rapport à notre situation pour nous arranger. Dieu ne fait pas ça. Dieu a donné sa parole. Il a écrit sa parole. Il a inspiré des hommes pour qu'ils écrivent sa parole. Et sa parole est la vérité. Et elle l'a toujours été. Dans le psaume 119, au verset 151 et 152, psaume 119, 151 et 152, je crois que c'est le psaume le plus long de la Bible. C'est ça, pasteur? Psaume 119. Il est très long. Il est très beau aussi. Attention. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Tous tes commandements sont la vérité. Tu les as établis pour toujours. Ces commandements sont la vérité. En hébreu, le mot vérité, c'est le mot emet, E-M-E-T-H. Donc, il signifie vérité. Il signifie aussi sûreté, sécurité, fidélité, stabilité. Vous voyez ? Donc, il y a cette idée de vérité, mais aussi cette idée de vérité solide. Ça ne bouge pas. C'est la maison construite sur le roc, pas sur le sable. Elle peut subir des tempêtes, elle peut subir des vents, elle peut subir des... Mais elle ne bouge pas, elle ne change pas. Et devons intégrer que cette parole est la vérité et qu'elle ne change pas. Et que c'est vrai pour nous aujourd'hui. Elle ne changera pas pour nos enfants. Nos enfants, quand ils liront leur Bible, quand ils grandiront, quand ils auront une relation avec Dieu, ils auront la même parole que nous. Et leurs enfants auront la même parole que nous. Et ainsi de suite. Et jusqu'à 1000 générations. Vous imaginez? 1000 générations après vous, qui entendront la même parole que vous, et qui mèneront une vie comme vous, conforme à ce que dit la même parole. Est-ce que ça, c'est pas puissant? Amen. La Bible, c'est pas un vieux livre périmé. Il y a des livres, on les laisse de côté au bout d'un moment, parce qu'on les a lus une fois, on les a lus deux fois, bon, c'est plus intéressant. Il y a des livres qui sont des livres historiques, donc une fois qu'on a lu l'histoire, il n'y a pas lieu de relire, puisque l'histoire... Mais la Bible, c'est un livre qui ne change pas, et pourtant, quand vous relisez votre Bible, quand vous relisez des chapitres, quand vous relisez les proverbes, quand vous relisez les évangiles, est-ce que vous n'apprenez pas des choses nouvelles? Est-ce que vous ne comprenez pas des choses nouvelles? Donc la parole de Dieu ne change pas, mais Dieu utilise sa parole pour nous changer, nous. Quatrième point, c'est que la direction de Dieu ne change pas. La direction de Dieu ne change pas. La direction de Dieu, c'est que Dieu, en 2025, veut que nous soyons au même endroit et que nous allions au même endroit que ceux qu'il avait pour, comme direction à donner pour les personnages bibliques. Ça n'a pas changé. Il veut nous amener à la même destination qu'eux. Pour cela, donc, il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole afin que nous croyions, il nous a donné sa parole afin que nous repentions. Il nous a donné sa parole afin que nous lui obéissions et que nous l'aimions. Et c'est la même direction qu'il avait pour chacun des personnages bibliques qui s'attachaient à lui. Si on prend quelques exemples, comme Zachée, il nous dit encore aujourd'hui que le salut est rentré dans notre maison par le Fils de l'homme, par Jésus, c'est-à-dire par pure grâce. Il est venu jusqu'à nous par grâce. Il nous le dit encore aujourd'hui, nous l'avons nous-mêmes vécu dans nos vies, nous l'avons expérimenté. Il n'est pas venu par nos efforts, il n'est pas venu par nos mérites, il est venu par amour, et il est venu par pure grâce. C'est l'histoire de Zachée, mais c'est aussi notre histoire. Comme Paul, il nous bénit toujours par son amour, tout en nous maintenant dans l'humilité. Et afin que la gloire lui revienne. Comme le peuple d'Israël dans le désert, pour nous, Dieu refuse le péché. Dieu est le péché. Il ne veut pas du péché dans nos vies. Et pour cela, comme pour le peuple d'Israël dans le désert, il nous enverra des épreuves. Il nous enverra des souffrances afin de nous éloigner de la désobéissance et de l'idolâtrie. Voilà ce qu'il fera. Est-ce qu'il ne le fait pas dans nos vies? Comme Israël, Dieu veut que son peuple recherche toujours une communion avec lui. Et qu'il rejette l'idolâtrie et qu'il soit obéissant. Et comme Abraham, il nous apprend à croire. Il nous apprend à croire en ses promesses. Il nous apprend à lui faire confiance, même si les éléments sont contraires, espérant contre toute espérance. Dans la prière, par la foi, avant de nous accorder ce qu'il nous a promis, Dieu nous donne-t-il pas cette direction-là à nous aussi aujourd'hui? Donc la direction de Dieu, pour nous aujourd'hui, est toujours la même. Il est toujours le même Dieu qu'au temps biblique. Et nous sommes toujours comme les hommes de la Bible, toujours aussi imparfait, toujours aussi rebelle, toujours aussi inconstant. Mais lui ne change pas. Lui n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, il est notre boussole. Cinquième point, c'est, je vous disais tout à l'heure, le plan de Dieu ne change pas. Le plan de Dieu. Nous lisons dans le psaume 33 au verset 11. Psaume 33, verset 11, donc version Semeur, je lis dans la version Semeur. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours. Si Dieu ne change pas, il y a une autre chose qui ne change pas, c'est son plan. Son plan n'a pas changé. Son plan, il est connu. Sa parole nous dit quel est son plan. Si nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons quel est le plan. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. La date et l'heure du retour de Jésus, par exemple, ça n'est pas dévoilé. Nous ne le savons pas. Mais le plan de Dieu pour les hommes, pour l'humanité, nous le connaissons. Il est écrit. Et il ne l'a pas caché. Sa parole dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc, c'est-à-dire que ce plan, il est connu. Il nous l'a communiqué. Et ce plan ne va pas changer. Car il ne ment pas. Et il ne se repent pas. Sa parole est la vérité, on l'a dit. Sa parole est immuable. Le plan est connu et le plan ne changera pas. Et ça doit nous rassurer. Moi, ça me rassure de savoir que tout est prêt. Que Dieu a tout préparé de toute éternité. Et que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, tout s'accomplira. Est-ce que tous nos plans s'accomplissent? Non. Si vous savez, moi, combien de plans j'ai eu qui ne se sont pas accomplis. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas les choses. Dieu, lui, il est aux commandes de nos vies. Il est aux commandes de la vie. Mais nous, nous sommes aux commandes de rien, en fait. Et un grain de sable dans les rouages, pour nous, c'est tout le plan qui s'effondre, en fait. Moi, des fois, j'ai fait des projets qui se sont écroulés, parce que je n'avais pas prévu qu'il pouvait se passer ceci ou cela. Et Dieu, lui, a tout prévu. Autre chose, c'est que Dieu n'agit pas en fonction de nos besoins immédiats, en fonction de nos plans, en fonction de notre timing, mais en fonction de son plan. C'est pour ça que parfois, nous prions et nous disons « Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela ». Presque nous commandons Dieu, nous, que nous prions. « Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. » Et en plus, des fois, on dit « Seigneur, fais-le maintenant. » Comme si Dieu attendait que nous lui disions comment et quand faire les choses. Non, nous devrions plutôt prier et dire « Seigneur, je te fais confiance, je te remercie parce que je sais que tu es aux commandes de ma vie. Je sais que je peux te faire confiance. Je sais que je peux tout te confier, que je peux te remettre tous mes besoins, tous mes projets, toutes mes difficultés. Et je sais que si ce que je te demande ou si ce dont je pense avoir besoin maintenant ne se réalise pas maintenant, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je sais que ton plan, c'est de me garder près de toi. Et quand je suis près de toi, je suis au bon endroit. C'est là où je veux être. Et conduis-moi, Seigneur. Je te remets ma situation. Fais ta volonté. Seigneur, fais ta volonté. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu ne veut pas le pire pour nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Alors restons confiants. Je vais vous faire un témoignage personnel. Il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mars, avec la famille, avec Stéphanie et les enfants, on a déménagé. On avait un projet de déménagement parce qu'on habitait dans un appartement et il manquait une chambre. Et donc, pendant à peu près, je dirais, un an, on a prié parce qu'on avait besoin d'un logement avec une chambre supplémentaire. Et on habite dans une zone où, on va dire que les opportunités sont, voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Et quand il y a une opportunité, il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de dossiers. Et donc, la décision des dossiers se fait par rapport à des critères, notamment financiers. Donc, s'il y a un meilleur dossier que vous, vous n'avez pas l'appartement, vous savez comment ça se passe. Et un jour, donc il y avait un appartement à 50 mètres de chez nous qui s'est libéré, qui correspondait vraiment parfaitement à tous les critères pour nous. Et Stéphanie avait envoyé une candidature et réponse négative, réponse refus. Bon, c'est pas grave, on continue, on prie. Et puis, quelques temps plus tard, on a une nouvelle réponse qui nous dit « C'est accordé. » Merci Seigneur. Amen. Et vous allez voir. Et alors, j'ai la réponse, et puis j'appelle le propriétaire de l'appartement où on habitait. Donc j'appelle le propriétaire, et pour l'informer que voilà, nous allons déménager, je vais envoyer le préavis, en gros, dans un mois, on n'est plus là. Et il me dit, ah, d'accord, très bien, parce que justement, j'allais venir vous voir demain pour vous annoncer que je vends votre appartement. Ce qui veut dire que si nous n'avions pas vu cet appartement, le lendemain, j'allais apprendre que j'avais en gros 6 mois pour trouver un nouveau logement. Voilà, bon, je ne sais pas où, avec quelles caractéristiques, budget, tout ça, voilà. Mais en gros, j'avais 6 mois. Donc, on l'aurait trouvé, certainement, par la grâce de Dieu, mais une pression, quoi, vous voyez? Voilà. Mais notre plan, nous, c'était d'avoir, à un moment donné, d'avoir un appartement, tout ça, mais le plan de Dieu, c'était qu'il était connu d'avance. Dieu savait d'avance quel était notre besoin. C'était pas d'avoir l'appartement 6 mois avant ou 6 mois après, c'était là. Il fallait là. C'est ce que je voulais vous partager. Donc pour terminer, après tout ce que nous venons d'entendre, et par rapport à ce que je disais au début, est-ce qu'on a toujours l'impression d'être, quand on lit la Bible, des spectateurs? Est-ce que vous avez cette impression-là, après tout ce qu'on a dit sur le fait que Dieu ne change pas? Au contraire, on est rassuré? Vous n'êtes pas rassuré? Mon plaisir. Le fait que Dieu ne change pas dissipe tous les doutes et toutes nos questions. Si on comprend que Dieu ne change pas, alors on évite la sérénité de Dieu dans nos vies. Hébreux 13,8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a dit que Dieu ne change pas, mais il faut dire aussi que Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même que celui qui est décrit dans les évangiles. Il a la même puissance. Il a le même pouvoir pour nos vies aujourd'hui. Hébreux 7 dit qu'il est un sacrificateur qui demeure éternellement, de sorte qu'il peut sauver tous ceux qui s'approchent de lui. Et tous ceux qui s'approchent de lui peuvent accéder au Père. Et il est toujours vivant. Et il intercède toujours en notre faveur auprès du Père. Amen. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand je pense à tout ça, ça me réconforte. Ça me fait du bien. Ça met de la joie dans mon cœur. Et je vous invite encore à méditer tout cela. Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Il demeure le même. Il est au contrôle de tout dans nos vies. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Comme les oiseaux, on le dit comme les oiseaux, ceux qui sont nourris par Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter. Je termine juste avec une question à méditer. Si Dieu, comme Jésus, n'ont pas changé et sont les mêmes que ceux qu'ont connus les hommes et les femmes dans la Bible, alors nous devons prétendre à avoir la même relation, à avoir le même niveau d'expérience avec Dieu, avec Jésus, qu'ont eu ces hommes et ces femmes. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Nous n'avons pas la vie de Paul. Nous n'avons pas la vie des disciples. Nous n'avons pas la vie d'Abraham. Nous ne vivons pas toutes ces choses-là. Alors que nous pouvons y prétendre, puisque nous parlons du même Dieu et nous parlons du même Jésus. Donc nous ne nous contentons pas d'une vie chrétienne plus faible. Nous ne nous contentons pas d'une vie chrétienne moins, entre guillemets, performante que celle qu'ont eu ces chrétiens ou ces croyants, mais au contraire, ayant cette ambition d'aller chercher un niveau d'intimité, de relation avec Jésus, avec Dieu, tel que l'ont eu ces hommes et ces femmes. Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, et je crois que parce qu'il ne change pas, justement, il nous appelle, nous, à comprendre que nous pouvons avoir cette même relation, que nous pouvons avoir cette même intimité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous réconforte, cette parole qui n'a pas changé. Ta parole n'a pas changé, Seigneur. Et quand je comprends cela, je comprends que tu peux tout dans ma vie. Je comprends que tu peux faire dans ma vie ce que tu as fait dans la vie de David, ce que tu as fait dans la vie de Josué, ce que tu as fait dans la vie d'Abraham. Je comprends et je m'attends à ces choses-là. Seigneur, permets-moi de le comprendre. Permets-moi de lâcher prise. Amène-moi à comprendre cela par la puissance de ton Saint-Esprit, à comprendre que je peux et que je dois te faire confiance, que c'est ce que tu veux, que c'est l'ambition que tu as pour moi, l'ambition que tu as pour nous, que nous nous remettions à toi, que nous te fassions confiance, que nous te reconnaissions comme le Seigneur de nos vies, comme notre Sauveur personnel, que nous puissions avoir ce niveau de confiance qui fait que quand nous nous levons le matin, quand la tempête est là, quand les difficultés sont là, quand la maladie est là, Seigneur, que nous gardions à nous
cette tranquillité, cette paix qui ne peut venir que de toi, de savoir que tu es près de nous et que, comme tu l'as dit, tu restes le même, que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. À toi soit toute la gloire.